grap.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de commencer la semaine avec vous et Culture Média. Et si vous n'étiez pas là en fin de semaine, juste ce chiffre pour vous remercier une fois encore, l'émission a gagné 10% d'auditeurs en un an. Merci à toutes et tous. Au menu du jour, on ne change pas une équipe qui gagne, médias et culture au sens large. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu aux alentours de 10h20. Mais avant cela, le journal des médias de Charles Decamp qui est déjà dans ce studio. Puis Bertrand Chamerois pour son écran de veille, on ne sait pas où il est. Et Eva Rock pour le zapping du lendemain que j'ai déjà vu ce matin à l'aube. Notre info média avec un ministre et pas n'importe lequel, Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Il est en première ligne avec l'appli Tous Anti-Covid qui ne décolle pas, les petits commerçants qui se disent lésés par les géants du numérique, la diffusion de fausses nouvelles et de haine sur les réseaux sociaux, à quoi s'ajoute la loi dite de sécurité globale où il est question, à tort ou à raison, du filmage des forces de l'ordre avec son portable. Nos invités ensuite, l'animatrice Sophie Davant et le patron de la rédaction de Télé 7 Jours, Jérémy Parer. Il lance S, le magazine de Sophie Davant dans lequel elle est présente à toutes les pages ou presque, en couverture, dans les interviews, mais elle dévoile également son dressing et ses recettes de cuisine. Pour quelle cible, sur quel modèle, ils nous diront. Enfin, le chanteur Vianney pour son nouvel album très attendu depuis 4 ans, titre savoureux, n'attendons pas. Il aurait pu faire comme beaucoup de gens du métier, attendre la fin du confinement pour le sortir, mais non, il a préféré prendre le risque. Il annonce une énorme tournée à venir, plus son arrivée au Resto du Cœur, plus une place de juré à The Voice. Quel sommaire! Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, votre sommaire à vous.
Les annonces de France Télé, la grande enquête d'Arte, Ouest France piratée, le retour de Manu Katché et les frites dont on sera privé.
Mais on commence comme chaque lundi, non pas par les frites mais par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Alors un dimanche très classique, c'est TF1 qui s'est imposé avec le film En eau trouble, le film sino-américain avec Jason Statham et des requins géants, a été suivi par 4 900 000 téléspectateurs, soit 20,6% du public. TF1 est également largement leader sur les femmes de moins de 50 ans, à 29% de part d'audience. France 3 est deuxième avec un nouvel épisode des enquêtes de Vera. La série britannique pointe à 4 millions de personnes tout rond, soit 16% du public. Et France 2 suit avec Quantum of Solace, le deuxième James Bond avec Daniel Craig. Il a fédéré en moyenne 3 700 000 téléspectateurs, soit 15% du public.
Et samedi soir, ça donnait quoi?
Eh bien, surprise, France 3 s'est imposé devant TF1 et France 2. Un inédit de Mongeville avec Laurence Boccolini en guest a permis à la chaîne public de réaliser un excellent score, 5,5 millions de téléspectateurs et 21,9% de part d'audience. TF1 s'est donc contenté de la deuxième place avec Masked Singer de retour après une pause d'une semaine à cause du foot.
Et Charles, c'est d'autant plus savoureux que l'an passé, c'est Laurence Boccolini qui avait remporté Masked Singer.
Voilà, et ben là, elle est devant Masked Singer en audience. Au compteur, pour TF1, 4 600 000 téléspectateurs et 20,1% de part d'audience seulement. C'est plus de 500 000 personnes et 3 points de PDA de perdu. TF1 reste très largement leader sur la cible des femmes de moins de 50 ans à 37%. Enfin, France 2 est troisième et elle s'en est très bien sortie avec la suite des masters de N'oubliez pas les paroles. 3 800 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 16,7% du public et un très joli 16% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est 700 000 personnes de plus que samedi dernier.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec les annonces de France Télévisions.
Le nouveau numéro 2 du groupe, Stéphane Cidbon-Gomez, a dévoilé ses projets dans une interview au Parisien. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors du côté des perdants, le jeu Boyarland, rétrogradé en fin d'après-midi le week-end après ses mauvais scores en prime. Le magazine Tout Compte Fait, Julien Bugier, est quant à lui menacé de disparition. Au mieux, il pourrait être sauvé en deuxième partie de soirée.
Et du côté des gagnants?
La chaîne a renouvelé sa confiance à Laurent Ruquier pour le samedi en deuxième partie de soirée avec son talk Vous êtes en direct. Et Thierry Ardisson planche aussi sur un nouveau programme. Et en parlant de nouveautés, la sélection du candidat français à l'Eurovision sera à nouveau confiée au public. Un prime événement sera diffusé début 2021, tourné en région. 12 candidats s'affronteront sous le regard de Stéphane Bern, qui sera aux commandes de l'émission.
Et puis ça ne faisait pas partie des annonces du numéro 2 de France Télévisions, mais une autre émission de France 2 devrait s'arrêter.
Tartare, c'est l'histoire d'une œuvre d'art.
De l'art.
De l'art.
J'adore.
Et oui, Dardar vit ses dernières semaines. La pastille culturelle diffusée chaque semaine juste avant le film du dimanche soir venait de souffler ses 18 bougies. C'est la philosophe Adèle Van Rett qui était aux commandes depuis 2 ans et c'est Frédéric Taddeï qui l'avait animé à ses débuts. Mais l'art ne va pas disparaître pour autant. En janvier, Dardar sera remplacé dans la même case par Africart. La journaliste Elisabeth Chungi y présentera un artiste, une œuvre et un pays du continent africain. 24 numéros ont été commandés. Puis, Adèle Van Rett reviendra avec une nouvelle pastille baptisée Oulalar et plus ancrée dans l'actualité.
Le focus média du jour, c'est la semaine très spéciale qu'Arte va lancer dès demain.
Elle s'appelle Il est temps et c'est le résultat d'une grande enquête en ligne lancée en juin dernier. 400 000 personnes ont donné leur avis sur les enjeux climatiques, démocratiques et sociaux. L'objectif de la chaîne franco-allemande était de prendre le pouls des téléspectateurs pour mieux adapter sa programmation. Suite à l'enquête, elle a confié la confection de 4 documentaires à des jeunes réalisateurs. Ils seront diffusés en deuxième partie de soirée sur la chaîne. Le directeur de l'unité Société et Culture d'Arte, Fabrice Puchot, a expliqué la démarche à Louise Bernard.
C'est la volonté, effectivement, de marquer un événement autour de cette interrogation sur la jeunesse en général, sur le rapport à l'écologie de la population. Et les films se sont concentrés sur certains aspects de cette jeunesse. Ces programmes ont été réalisés en France, en Allemagne. Il y a des réalisateurs, pour la plupart d'entre eux, ce sont des premiers films. Ça nous a semblé important parce que ils avaient un regard peut-être différent d'une autre. C'est aussi ce regard qu'il fallait transmettre. Ça fait aussi partie des missions d'Arte qui, en plus de se moderniser, se doit aussi d'être à la recherche des talents.
Fabrice Puchot au micro de Louise Bernard. Il est temps, c'est aussi une série de 5 pastilles consacrées à l'écologie et à l'avenir. Elle sera diffusée tous les soirs dès demain sur Arte et elle est déjà disponible sur arte.tv.
3 jours après Paris-Normandie, le quotidien Ouest-France a été victime de pirates ce week-end.
Ils se sont attaqués au serveur du journal dans la nuit de vendredi à samedi. Les boîtes mail des salariés ainsi que le logiciel de mise en page ont été bloqués samedi. Mais le site internet n'a pas été affecté. Le quotidien a été contraint de publier une édition unique hier contre les 9 déclinaisons qu'il propose traditionnellement chaque dimanche.
Et puis le focus programme du jour, c'est la nouvelle émission de Yahoo.
Ça s'appelle La Face Cachée. C'est une émission d'entretien qui s'intéresse à la diversité, qui est animée par Manu Katché. Le musicien interroge Yannick Noah sur son parcours et l'interview a particulièrement touché le patron de Yahoo France, Alexandre Delperrier.
Quand il raconte son parcours, son arrivée à Nice à 12 ans, tout seul, prenant l'avion de Yaoundé, arrivant à Marseille, le train jusqu'à Nice, traverser Nice avec sa petite valise, la nuit tout seul. Tout de suite, on l'appelle Bamboule quand il arrive dans ce sport-études et qu'il se dit, lui, je vous répondrai sur le cours, et bien qu'il soit le plus petit, en travaillant beaucoup plus que les autres, en se levant plus tôt, en se couchant plus tard, en faisant des efforts colossaux, que rapidement, au bout de 6 mois, il battait tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était bouleversant.
Alors de nouveaux numéros ont déjà été commandés et le prochain invité sera une invitée avec toujours le même objectif.
Moi ce que je veux, c'est que ça soit inspirant. Inspirant pour des gens issus de la diversité, mais aussi inspirant pour des gens comme moi, non issus de la diversité, où on se rend compte à quel point ces gens sont regardés différemment et à quel point leur vie est différente des nôtres. Quand avec Manu on travaille sur les futurs numéros, on a comme Yannick des personnalités de premier plan qui répondent quasiment toutes oui. Donc ça veut dire que toutes ces personnes issues de la diversité qui sont aujourd'hui connues, qu'ils soient sportifs, artistes, politiques, industriels, ils ont tous connu ça et qu'ils répondent tous favorablement me remplit de joie et de satisfaction en me disant « mais on va, j'espère, inspirer des générations de gens à travers ce programme ».
Le patron de Yahoo France, Alexandre Delperrier, au micro de Louise Bernard.
Et on termine ce journal avec une mauvaise nouvelle pour les fans des Tuches.
Des frites.
Voilà les frites. Alors vous mangerez sans doute une bûche à Noël, mais vous ne verrez pas les Tuches à Noël. La sortie du 4e volet de la saga a en effet été décalée du 16 décembre prochain au 3 février 2021. Alors on devrait savoir demain si les salles de cinéma seront autorisées à rouvrir en décembre. Si c'était le cas, le report de sortie des Tuches 4 serait une bien mauvaise nouvelle pour les exploitants. Ils comptent sur le mois de décembre pour faire le plein et pour tenter de sauver autant que possible une année 2020 catastrophique. Un film populaire comme les Tuches 4 auraient pu sérieusement les y aider.
Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour va parler de l'importance des médias numériques dans la crise actuelle, de l'application Tous Anti-Covid jusqu'aux réseaux sociaux. Notre invité, c'est Cédric O, le secrétaire d'État chargé de la transition numérique. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
Cela fait des semaines que ces sujets sont au centre de l'actualité. Le rôle des médias numériques dans les crises actuelles est crucial. Crise sanitaire avec l'application Tous Anti-Covid, crise économique avec les sites de commerce en ligne et crise de confiance avec la diffusion de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux, des dossiers sur lesquels le gouvernement travaille. Que compte-t-il faire? Quelles sont ses réponses? Pour en parler, Culture Média est heureux de recevoir Cédric O. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Emmanuel Macron, le président, doit prendre la parole demain soir. Il devrait annoncer une évolution, probablement un allègement des mesures de confinement. Les commerces pourraient bientôt rouvrir, on va y revenir. Mais avant cela, un mot de l'application Tous Anti-Covid. Dans le JDD hier, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, était interrogé sur le traçage des malades. Il n'a pas eu un mot pour l'application. Ne pas en parler alors qu'elle est faite, principalement pour tracer les cas positifs. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec?
Je pense que c'est tout le contraire.
Il n'en parle pas parce que ça marche bien.
Je ne pense pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Effectivement, ça marche plutôt bien. On est à 9,5 millions de personnes qui aujourd'hui ont activé l'application. Donc c'est un très bon chiffre. Il y a déjà plus de 13 000 personnes qui ont reçu une notification cas contact, donc qui ont été prévenues, qui ont pu s'isoler, se faire tester. C'est un très bon chiffre, mais on souhaite aller plus loin. Puisque, comme l'INSERM l'a modélisé elle-même, donc l'INSERM, l'Institut de recherche en épidémiologie, ce serait très bien qu'on soit à peu près 20% de la population, donc à peu près 15 millions de personnes, au moment où on rouvre ou en tout cas on allège les mesures de confinement, parce que ça peut être extrêmement utile pour aider à mieux contrôler la maladie.
Donc c'est un outil sur lequel compte encore le gouvernement pour lutter contre l'épidémie.
Plus que jamais.
On est à quel pourcentage désormais? Vous me l'avez dit, je n'ai pas réussi à faire la...
9 millions et demi, ça doit être un peu significativement plus que 10%, donc on doit être à 13-14%.
On en parle parce que la communication du gouvernement autour de l'application n'a pas été optimale. Exemple, c'était le 24 septembre dernier. Jean Castex, le Premier ministre, était l'invité de l'émission politique sur France 2. Il était interrogé par Thomas Soto et Léa Salamé.
Vous téléchargez l'application Stop Covid sur votre téléphone?
Non.
Non?
Quoi? Non. Non, parce que je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi?
Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait?
Je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je ne l'ai pas fait.
Vous êtes honnête, mais c'est... Voilà.
C'est un peu dire...
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Non. Je vais vous dire, parce que, écoutez-moi bien, vu les activités qui sont les miennes, vous les voyez?
Oui.
Très honnêtement. Stop Covid, c'est très intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde, vous allez... Malheureusement, l'exercice de mes fonctions fait que je ne prends plus le métro, je le regrette.
Oh,
je
vous croisez des gens tout le temps.
Vous avez vu Christian Prudhomme, heureusement qu'il vous a prévenu, parce que l'application...
Il y a Bruno Le Maire que vous croisez qui est malade.
Oui, mais en tout cas, je vois quand même, hélas, beaucoup moins de monde devrait que l'utilisation
juste
de Stop
une question.
Covid.
Alors Jean Castex, Premier ministre, n'était pas le seul. Deux autres ministres n'avaient pas téléchargé non plus cette appli. Marlène Schiappa, Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Le message envoyé était catastrophique. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Alors, tous ces ministres, notamment le premier d'entre eux, ont téléchargé l'application Tous Anti-Covid depuis, et Jean Castex a tenu à la relancer lui-même le 22 octobre dernier. Là, vous parliez de la précédente version de...
Oui, qui s'appelait Stop Covid.
De Tous Anti-Covid, qui s'appelait Stop Covid.
Mais là, il y a un ratage à l'allumage.
On a eu quelques difficultés sur la précédente version, effectivement, qui a été lancée le 2 juin jusqu'au 22 octobre. On était à peu près 3 millions de personnes qui l'avaient téléchargée. Depuis le 22 octobre, on est passé à 9 millions et demi.
Donc 9 millions, juste un mot, un détail technique, 9 millions de personnes qui l'ont téléchargée et combien sur ceux-ci l'ont activée?
Ah, c'est 9 millions et demi de personnes qui l'ont activé. Donc on ne publie que le chiffre des gens qui l'ont activé. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur l'application vous pouvez le suivre en temps réel. Ça me permet quand même de faire un petit dégagé sur à quoi ça sert cette application. En fait, quand ils ont rouvert dans un restaurant ou dans un petit commerce ou que vous prenez des transports en commun, que vous faites des réunions, que vous êtes à côté de gens que vous ne connaissez pas et qui peuvent peut-être être contaminés, qui peuvent vous contaminer, si tous les deux vous avez l'application et que la personne après se déclare, vous serez prévenu, ce qui vous permettra de vous isoler pour éviter de contaminer vos proches, mais également d'avoir accès de manière prioritaire, comme tous les cas contacts, à un test. Donc ça permet de gagner du temps sur l'épidémie, et ça fait qu'aujourd'hui, il y a 13 000 personnes qui ont reçu une notification, vous êtes cas contact, et qui ont pu s'isoler et se faire tester.
Toute petite question technique, un cas contact de combien de temps? Il suffit de quelques secondes ou il faut 3 minutes en présence de...
Alors, c'est plus de 15 minutes à moins d'un mètre. C'est la définition qui nous a été donnée par les autorités de santé, d'ailleurs sur laquelle il peut y avoir des discussions actuellement pour éventuellement retravailler cette définition.
Un vaccin, je ne vous apprends rien, devrait arriver dans les mois qui viennent, si ce n'est dans les semaines qui viennent. Si on se fait vacciner, est-ce que cela va apparaître sur l'application?
Alors non, ça n'apparaîtra pas sur l'application, mais le vaccin va mettre du temps à arriver. Donc on est assez optimiste pour qu'il y ait quelque chose, je crois, d'ici le début de l'année prochaine. Mais le temps qu'on vaccine tout le monde, on a besoin de continuer à respecter les gestes barrières. On a besoin d'avoir des outils pour gérer l'épidémie et tous anti-Covid en fait partie.
Alors vous avez vu qu'il y a des gens qui ont peur de se faire vacciner, à tort ou à raison, et la technologie également fait peur. Beaucoup de Français n'ont pas téléchargé tous anti-Covid par peur de voir leurs données utilisées. Est-ce que vous comprenez cette crainte et que leur répondez-vous ?
Alors je la comprends et je leur réponds que la Commission nationale informatique et liberté, qui n'est pas connue pour être particulièrement clémente avec le gouvernement, est venue à plusieurs reprises, la semaine dernière encore, ouvrir le capot de l'application, faire toutes les vérifications, et qu'elle a à chaque fois validé l'application en disant qu'il n'y avait aucun problème et que les données étaient protégées.
Est-ce qu'on n'est pas ici dans une double injonction ? Parce que je me souviens que ça fonctionne très très bien, ce type d'application, notamment en Corée du Sud, mais c'est un peu intrusif dans la vie privée. Est-ce que la vie privée n'est pas protégée à ce point que c'est assez inopérant ?
Alors, ce n'est pas inopérant dans la mesure où, encore une fois, je répète, il y a déjà 13 000 personnes qui ont pu s'isoler grâce à l'application. Donc, ce n'est pas du tout négligeable et ça a déjà un impact sanitaire important. Il y a des choix différents qui ont été faits dans des démocraties asiatiques comme la Corée du Sud ou le Japon dans l'équilibre entre vie privée et efficacité
sanitaire. Ce qu'il faut le dire, ça allait trop, c'était efficace, mais ça allait trop loin.
Ça allait trop loin, ça dépend de votre choix démocratique. Je veux dire, la population de ces pays l'accepte extrêmement bien. Après, pour des raisons de culture différentes, nous, on a fait un choix différent, qui est d'extrêmement protéger les données, parfois au détriment de l'efficacité sanitaire. Aujourd'hui, je pense que le choix était le bon, puisque l'application a été massivement téléchargée, mais on peut encore aller plus loin, et donc j'incite tous ceux qui veulent nous aider à lutter contre l'épidémie, ceux qui veulent nous aider d'ailleurs à rouvrir les petits commerces, à rouvrir demain les bars et les restaurants, à télécharger ou à faire télécharger cette application, parce qu'elle doit nous aider à reprendre une vie sociale, tout en contrôlant l'épidémie.
Est-ce que vous avez prévu des améliorations ou des nouvelles fonctionnalités dans l'appli ? Par exemple, obligé à l'avoir téléchargé pour avoir le droit d'entrer dans un commerce ou des choses pareilles ?
Alors, pas pour les commerces. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, pour entrer dans un restaurant, vous devez flasher un QR code avec l'application ou d'ailleurs laisser vos coordonnées. On travaille à des fonctionnalités similaires pour faciliter la réouverture des restaurants ou des bars.
L'échéance de quand ?
Pour l'instant, on est en discussion avec les autorités sanitaires.
À l'échéance de quelques minutes, Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, on a beaucoup de questions sur beaucoup de domaines à lui poser. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Cédrico, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, beaucoup de sujets à aborder avec lui. On va rester pour clore ce dossier tous anti-Covid. C'est une application que les Français peuvent télécharger. Y a des gens qui ont peur de la télécharger pour telle et telle raison. Et puis aussi, en France, seulement 77% des gens ont un smartphone. Donc vous savez qu'il y a, un continent inatteignable. Est-ce que c'est en partie à cause de cette crainte, de cette peur, que vous avez décidé de lancer la semaine dernière un plan qui a pour but de former les Français au numérique ?
Non, ce n'est pas spécifiquement à cause de cette peur. On a lancé un plan qui vise à former les Français au numérique parce qu'aujourd'hui, il y a un Français sur 6 qui n'utilise jamais un ordinateur et un Français sur 3 qui manque de compétences numériques. Or, aujourd'hui, on le voit dans la vie de tous les jours, pour faire des démarches administratives, pour vendre un bien, pour garder le contact avec ses proches pendant le confinement, on a besoin de se savoir se servir des outils numériques. Et donc, l'électronisme, donc le fait que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise avec le numérique, est un facteur de fracture sociale, de fracture territoriale parfois, qui est terrible. Et on doit faire en sorte de mettre tout le monde à bord, de former les gens au numérique pour les aider à faire leurs démarches quotidiennes, mais également pour les aider à mieux comprendre un monde qui est de plus en plus numérique.
En même temps, l'exécutif a sa part de responsabilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « mais pourquoi on a arrêté le simple courrier ?» Il y a des choses qui ne peuvent plus se faire par courrier.
La plupart des choses peuvent continuer à se faire par
exemple, on ne peut plus payer ses impôts par un chèque.
Si vous pouvez payer vos impôts par un chèque, notamment quand vous êtes dans des endroits où vous êtes mal raccordé ou si vous ne savez pas vous servir d'un ordinateur. Donc, il y a toujours une capacité à faire les choses de manière physique, mais c'est vrai que c'est vrai des services publics, c'est vrai aussi de l'ensemble des services privés, hein, des banques, des démarches que vous devez faire tous les jours. Elles sont de plus en plus numériques. Et donc, l'objectif, ce n'est pas d'aller contre cette transformation. Ça apporte quand même beaucoup de simplicité pour beaucoup de monde, pour faire des démarches le soir ou quand les services sont fermés. Par contre, il faut faire en sorte de former tous ceux qui peuvent l'être.
Comment allez-vous former ces personnes qui peuvent l'être, comme vous dites ?
Alors, ce qu'on a annoncé là, c'est une mesure absolument inédite. On va recruter, former et déployer partout sur le territoire 4000 conseillers numériques qui sont des personnes qui vont former les gens au numérique partout sur le territoire.
Et donc pour dire les choses, qui vont aller à la rencontre des petites mamies chez elles.
Exactement, qui pourront être soit dans les mairies, soit dans les tiers-lieux, soit dans les centres de médiation sociale, soit dans les centres d'action sociale, partout, dans les médiathèques, partout à l'endroit où il y a des personnes qui ont besoin d'être formées. C'est vrai des personnes âgées, vous l'avez dit, mais c'est pas vrai que des personnes âgées. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui certes savent se servir d'un smartphone, savent faire du WhatsApp, savent aller sur Snapchat, mais dès qu'il s'agit de faire un CV, dès qu'il s'agit de s'actualiser sur Pôle emploi, il n'y a plus personne. Et donc, c'est un vrai problème de société. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette avancée qui est inédite. On va doubler le nombre de personnes qui forment au numérique partout sur le territoire.
Ça me fait sourire parce que vous voulez dire que les digital natives, c'était une légende, c'était juste un mot.
Non, mais il n'y a pas de digital natives. On n'est pas avec un téléphone portable dans la main. Et ça n'a rien à voir de savoir se servir de Facebook, de Snapchat ou d'Instagram et de faire des démarches administratives ou de devoir s'actualiser sur Pôle emploi. Donc, on a besoin de former tout le monde, les personnes âgées, mais pas que.
Il y aura un petit retard à l'allumage parce qu'il y a encore les déplacements et les réunions qui sont limités à cause du confinement. Quand est-ce que vous allez être en pleine capacité ?
Alors, de toute façon, on veut former des gens qui sont de véritables professionnels de la médiation numérique, donc ça va mettre 2 ou 3 mois pour les former, mais on espère qu'ils arriveront sur le terrain au premier trimestre de l'année prochaine.
Alors, votre plan a également pour objectif de lutter contre la diffusion en ligne de fausses nouvelles, de fake news, de fariboles, comme on dit en bon français, contre celle des discours de haine également. En quoi votre plan va-t-il aider à les combattre ?
Alors, il y a un texte très important qui doit être présenté par l'Union européenne début décembre, qui doit permettre de fixer des obligations de modération aux grandes plateformes, donc aux grands réseaux sociaux.
Aujourd'hui, pardonnez-moi, j'ai l'impression que ça fait des années et des années qu'on le dit. Alors, qu'est-ce que ce plan aura de différent des plans précédents ? J'ai l'impression que tous les 6 mois, j'entends ça.
Alors, il y avait déjà ça dans ce qui s'appelait la loi Avia auparavant, mais qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel pour des raisons de forme, disons. Et donc là, il y a un règlement au niveau européen qui doit, faire la transparence sur ce que font les grands réseaux sociaux. Comment marchent leurs algorithmes, combien de modérateurs ils ont en langue française. Aujourd'hui, en tant que secrétaire d'État au numérique, je ne sais pas combien de gens chez Twitter modèrent les contenus en langue française et je ne peux pas vérifier ce qu'ils me disent. C'est-à-dire, s'ils me disent j'ai 2000, 3000 personnes qui modèrent, je ne peux pas le vérifier. Donc, il faut qu'on fasse la transparence et qu'on puisse vérifier. Et par ailleurs, si on estime que ce n'est pas au niveau, à la fois dans la lutte contre la haine en ligne ou contre la désinformation, on doit pouvoir les contraindre à mettre plus de modérateurs, à être plus efficaces, parce qu'ils sont extrêmement importants aujourd'hui dans la manière dont se diffuse l'information et dans ce phénomène que vous évoquez de désinformation, mais également dans les phénomènes de haine en ligne qu'on a connus dernièrement.
Et est-ce que vous pensez que ces grands groupes vont réussir, ou plutôt vous allez réussir à les faire plier ?
Il y a quelques années, l'Europe a passé ce qu'on appelle le Règlement général de protection des données, qui est le règlement le plus protecteur aujourd'hui des données dans le monde. Ouais. Et ils s'y sont pliés parce qu'il y avait des amendes extrêmement importantes à la clé. On veut faire exactement la même chose dans le domaine de la modération.
Et d'autres pays ont recopié justement ce RGPD.
Exactement, c'était ensuite adopté par le Japon, par la Californie, par un certain nombre d'autres pays. L'Europe, comme elle sait le faire quand elle est unie, a fixé le cadre et a été pionnière dans la protection des données des citoyens européens et du monde. On veut faire la même chose dans la modération.
Est-ce que la France est en retard dans le domaine du numérique? J'entendais dire que je crois que les chiffres, c'est 60 ou 70% des commerçants ont un site internet en Allemagne, en Italie, et seulement 30% en France.
Alors, les entreprises du numérique françaises sont extrêmement performantes. On est aujourd'hui le premier pays en termes d'entreprises en numérique, dans les startups, en Europe. On vient de passer devant les Allemands. Il y a énormément d'innovation, énormément d'entrepreneuriat. Là où on est un peu en retard, effectivement, c'est sur la numérisation des TPE-PME, particulièrement des commerces. On doit être le 16e ou le 17e pays dans l'Union européenne. C'est pour ça qu'avec Alain Griset et Bruno Le Maire, nous avons annoncé la semaine dernière un plan extrêmement important pour accompagner la numérisation des petits commerces, à la fois en aidant les collectivités territoriales qui veulent créer une place de marché locale, un petit Amazon local, ça marche très bien par exemple à Angers, ou alors en finançant un petit commerce qui a été fermé administrativement pour l'aider à se digitaliser en lui accordant un chèque de 500 euros. Ce qu'on doit faire, c'est réussir ce qu'ont réussi à faire les Allemands ou les Italiens. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a 30% des petits commerces français qui vendent en ligne. Il y a 72% des petits commerces allemands qui vendent en ligne. On doit accélérer parce que cette question du e-commerce, elle existait avant le confinement. Elle va continuer après le confinement. Et la meilleure manière pour les petits commerces de résister aux e-commerçants, à Amazon, etc. Et c'est bien de vendre en ligne eux aussi.
Qu'est-ce que vous leur dites quand ils viennent vous voir en disant « on ne peut pas lutter contre Amazon » ?
Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la France est le pays où les e-commerçants résistent le mieux à Amazon. La part de marché d'Amazon en France, c'est 20%. En Europe, par exemple en Allemagne, c'est 40% sa part de marché. C'est bien que quand on est performant, quand on arrive à avoir cette relation client, quand on vend en ligne en même temps qu'on vend dans son petit commerce, on peut résister à cette tendance du e-commerce, mais pour cela, il faut aussi vendre en ligne.
Oui, vous comprenez très bien la rancœur du petit commerçant, c'est qu'il dit Amazon est ouvert et nous, on est contraints à être fermés.
c'est vrai, mais ça, c'est pas la faute d'Amazon. Je veux dire, il y a des décisions qui sont liées à la crise sanitaire, qui sont de faire en sorte qu'il n'y ait pas de commerce physique ouvert, parce que ça augmente les interactions sociales. Maintenant, il est normal que ceux qui vendent en ligne puissent continuer à vendre en ligne. Et donc, la solution, c'est de faire en sorte que les petits commerces aussi puissent vendre en ligne.
Autre dossier sur votre bureau, le déploiement d'une technologie qui fait débat, c'est peu le dire, la 5G, elle a été lancée officiellement vendredi dernier à Nice avec SFR. Orange devrait suivre cette semaine à Marseille, vous confirmez ?
Je laisse les annonces aux opérateurs privés, mais on devrait voir effectivement l'ensemble des quatre grands opérateurs ouvrir la 5G d'ici début décembre.
Alors, il y a beaucoup de Français qui se méfient de la 5G, et pas seulement des complotistes, pour des raisons sanitaires, pour des raisons écologiques, pour des raisons économiques, notamment des maires de grandes villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux. Est-ce que cette méfiance, voire cette opposition, vont ralentir le déploiement de la 5G ?
Alors, je ne pense pas, d'abord parce que le déploiement de la 5G n'est pas à la main des maires, mais à la main de l'État. Et le deuxième élément, c'est que je vois beaucoup.
Un maire, pardonnez-moi, n'a pas le droit de refuser l'installation d'une antenne sur son territoire.
C'est l'État qui décide cela. C'est le Conseil d'État qui en a jugé il y a quelques années et qui a toujours été constant dans ce jugement. Le deuxième élément, c'est que je vois beaucoup de calculs politiques dans ce positionnement, ne serait-ce que parce que les maires des grandes villes savent pertinemment une chose, c'est que d'ici un ou deux ans, les réseaux et les bandes de fréquences 4G vont saturer. Et donc, en étant contre la 5G, ils sont mécaniquement pour laisser saturer. Parce qu'il y a deux ou trois options simples, c'est soit vous laissez saturer, parce que compte tenu de l'augmentation du débit 4G ou 5G, ça va saturer, soit vous remettez des antennes 4G, soit vous remettez des antennes 5G qui consomment 20 fois moins d'électricité que les antennes 4G. Donc le vrai choix environnemental, c'est de mettre des antennes 5G.
Et juste un mot, je pense notamment au maire de Bordeaux, le maire écolo de Bordeaux, quand il dit qu'il demande un moratoire pour l'installation de la 5G dans sa ville, si vous dites que c'est pas lui qui est responsable et qui a le final cut en matière d'installation, c'est une posture politique.
Mais c'est d'autant plus une posture politique qu'il ne l'a même pas fait voter dans son conseil municipal.
D'un côté, votre plan de lutte pour l'inclusion numérique, et de l'autre côté, le déploiement de la 5G, la nouvelle norme des communications mobiles. On voit que vous voulez réduire les fractures d'un côté, de l'autre, les creuser avec une technologie qui va demander des nouveaux équipements. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ?
Pas du tout, justement. On doit faire en sorte d'être au bon niveau technologique parce que c'est dans la concurrence internationale, parce que l'ensemble des pays qui relancent leur économie le font sur la compétition technologique. Et d'ailleurs, les Français adoptent massivement ces outils technologiques. Mais d'un autre côté, on ne peut pas laisser de côté toute une partie de la population. Et donc, on investit dans la compétitivité dans notre entreprise, dans nos emplois de demain. Et en même temps, on fait en sorte que tout le monde reste à bord en formant tous les Français au numérique.
Dernier sujet qui vous concerne évidemment, parce que ça se fait avec un portable, entre autres, et sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur doit recevoir les syndicats et les organisations de journalistes aujourd'hui, des journalistes inquiets de la loi dite de sécurité globale, notamment son article 24, loi qui doit être adoptée en première lecture à l'Assemblée demain. Est-ce que vous comprenez cette inquiétude des journalistes ?
Je comprends cette inquiétude, j'ai assez peu de temps pour répondre, donc je serai assez elliptique. Bon, je pense que la disposition est passée, qu'il y a un certain nombre de mesures de rééquilibrage qui ont été prises. J'espère qu'elle sera à la fois efficace et qu'on évitera les effets indésirables. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une discussion entre tous les gens de bonne volonté, l'État, les journalistes, la société civile, sur cette question des fausses informations, sur ce que change le numérique à la diffusion de l'information et à l'utilisation.
La vraie question qui posait problème, c'était pas la diffusion ou non de fausses nouvelles, c'était le droit de filmer des policiers et le droit de les mettre sur les réseaux sociaux.
Parce que le numérique a complètement changé la manière dont se diffusait l'information. Et donc, on allait là, prendre cette disposition pour éviter l'utilisation maligne par certaines personnes qui filment les policiers pour ensuite diffuser leur visage, leurs coordonnées sur Internet pour créer des vendettas. Et donc, je comprends l'émotion qui est liée à la prise de la disposition, mais il faut bien gérer cette nouvelle utilisation par des personnes qui pervertissent le droit et le numérique, que ces personnes font d'Internet, des smartphones et des réseaux sociaux. On doit le gérer collectivement, c'est vrai dans le cas qu'on évoque, c'est vrai dans le cas des fake news, c'est vrai dans le cas d'agissements d'entreprises de simili médias comme RT et Sputnik, financées par l'étranger et qui viennent perturber notre démocratie, c'est vrai avec Hold Up, le documentaire qui a fait polémique. On a un problème, c'est qu'on a des lois et des dispositions et des institutions qui ont été créées il y a un siècle et qui aujourd'hui sont mises sous tension par la diffusion du numérique, par les réseaux sociaux, par Internet. Et donc, on doit réfléchir collectivement à mettre à jour nos mesures prophylactiques et nos institutions. Et au-delà de la disposition qui fait débat, on doit pouvoir en discuter tous ensemble.
Prophylactique, je retiens ce mot, il s'applique à beaucoup de choses. Merci beaucoup Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique. Merci d'avoir été ce matin en direct dans Culture Média. Dans un instant, tout à fait autre chose, on sera avec l'animatrice vedette d'Affaires conclues sur France 2, Sophie Davant. Elle sort son magazine féminin, ça s'appelle SS comme Sophie. On en parle avec Jérémy Parer, qui est le directeur de la rédac du magazine et de Télé 7. Jours. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Blondel.
Bonjour Sophie Davant.
Bonjour.
Animatrice télé, l'une des plus populaires de France. Vous êtes tous les après-midi à l'antenne avec une émission qui cartonne, affaire conclue et qui va rester à l'antenne. En ce moment, il y a des émissions qui disparaissent de la grille de France 2, pas la vôtre. Et vous ajoutez, Sophie, une corde à votre arc. Vous lancez un magazine, non seulement à votre image, mais à votre nom. Il s'appelle S, le magazine de Sophie Davant. Je le monte à la caméra pour les gens qui nous regardent sur Europe1.fr. C'est un bimestriel dont vous faites la couverture, magazine dans lequel vous êtes très très impliqué. Bonjour Jérémy Parère.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction de Télé 7 jours et également le rédac-chef de ce magazine S. C'est vous qui avez convaincu Sophie d'en être l'égérie et la fille ouvrière. On va le raconter justement, Sophie, avant qu'on décrive le magazine. Racontez-nous la genèse. L'idée n'est pas de vous. Si j'ai bien suivi, tout démarre d'un déjeuner avec Jérémy Parère ici présent et Claire Léos, qui est la directrice générale du groupe CMI, qui édite elle, Télé 7 jours, Marianne. Racontez.
Donc on va déjeuner dans un restaurant très agréable et il me parle de ce projet et donc je discute avec eux comme si on parlait d'une autre et je me mets au même niveau qu'eux en leur suggérant 10 noms de femmes inspirantes qui pourraient être l'égérie de ce magazine.
Parce que l'idée de base c'est qu'ils veulent lancer un magazine féminin.
Ils veulent lancer un magazine féminin un peu différent et autour d'une personnalité, d'après ce que j'ai compris, en ayant constaté le succès de Michel Simès avec son magazine autour de la santé.
So Good.
Et donc, ils se sont dit, c'est peut-être une bonne formule que d'associer un magazine à une personnalité fédératrice. Et donc, j'ai pensé absolument pas qu'on parlait de moi. Je suis rentrée chez moi en me disant que de toute façon, ça se ferait pas vu le contexte, hélas, de la presse écrite. Et puis quelques mois plus tard, ils sont revenus vers moi. Alors entre-temps, j'avais réfléchi, si je devais faire un magazine, qu'est-ce que je ferais? Il se trouve qu'on était tout à fait d'accord sur la ligne éditoriale. Et ben voilà, c'est parti quoi.
Jérémy Parère, Dr Good et non pas So Good, le magazine de Michel Simès. Jérémy Parère, à qui s'adresse ce magazine? Quelle est la cible?
Bah déjà à toutes les femmes, effectivement, quand on a pensé ce magazine, on s'est dit est-ce qu'il y a peut-être un petit manque en presse pour justement des magazines pour les femmes de 45 ans et plus, parce qu'on est obligé de déterminer une cible au début, et quelque chose qui soit joli, quelque chose qui prenne le temps aussi, parce que c'était vraiment une envie de retourner à une presse où on prend le temps de la lire, donc pas du tout sur un format hebdo quoi que ce soit, et de pas être élitiste dans le contenu ou dans la forme, et d'être tout aussi beau, en tout cas que les magazines féminins comme on peut en voir beaucoup, mais être très accessible, très populaire. Et il fallait fédérer. Et le choix de Sophie, en fait, a été immédiat. Donc, elle ne l'a pas compris au déjeuner parce que je pense qu'elle ne voulait pas croire qu'on lui proposait ça. J'avais quand même un petit peu travaillé avec une petite présentation, mais c'est vrai qu'elle est repartie en n'y croyant pas. Et pourtant, on l'a fait.
Alors là, Sophie, c'est peu dire que vous êtes présente, vous signez l'éditorial, c'est normal, mais également une grande interview de Catherine Pancol, mais aussi un entretien avec Francis Cabrel. Là, c'est classique. Mais ça va beaucoup plus loin. Les pages mode, c'est pris, c'est vous, dans votre vestiaire. Et même les recettes de cuisine, ce sont vos recettes. Il faut sacrément avoir confiance en soi.
C'est normal pour le premier numéro, parce qu'il faut que ça tourne autour de mon univers. Mais évidemment, mon souhait, et là, il y a petite bataille avec Jérémy à la rédaction, mon souhait, c'est... Moi, je n'ai pas envie d'être en couverture à chaque fois et que ça tourne autour de moi à chaque fois. Moi, ce que je voudrais, c'est être un vecteur, un trait d'union entre le grand public et avoir accès à des personnalités auxquelles eux n'ont pas accès. Donc, c'est ça qui m'amuse, c'est d'être une sorte de passeuse, peut-être de porte-drapeau pour véhiculer l'idée que au-dessus de 45 ans, on est des femmes encore tout à fait, je l'espère, séduisantes, vivantes, avec des envies, avec des projets. Et je voudrais qu'en lisant ce magazine, elles se disent « moi aussi, je peux aller au bout de mes envies ».
Le journal s'ouvre par une longue interview de vous. Il y a des interviews par vous, mais il y a aussi une interview de vous dans laquelle vous dites « j'ai envie de me prouver que je ne suis pas uniquement cette fille sans profondeur qui fait de la télévision, qui est sympa et qui a des fous rires ». Et c'est ainsi que vous percevez?
C'est ainsi que trop de gens me perçoivent, je crois. Voilà, moi, je suis quelqu'un comme tout le monde, c'est-à-dire avec plein de facettes, et j'ai des facettes aussi profondes que futiles. Et je le revendique. J'aime être dans la vie, j'aime être rieuse, mais j'aime aussi réfléchir. Et voilà, c'est un ensemble.
Du profond et du futile, il y en a dans S Magazine, comme dans la vie, comme dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sophie Davant et de Jérémy Parer, il lance S, le magazine de Sophie Davant. C'est Sophie qui incarne le magazine et Jérémy Parer, vous en êtes le rédacteur en chef. Il y a une très longue interview, on parlait de profondeur, très longue interview de votre amie Catherine Pancol, Sophie Davant, qui raconte des choses très personnelles, qui raconte comment elle s'est fait violer à l'âge de 12 ans par un voisin, mais plus tard à 18 ans quand elle avait un job d'étudiante. La première fois qu'elle en a parlé, c'était ici, dans Culture Média. Mmh. Et c'est complètement fou, ce qui est une révélation qu'elle fait, que sa maman était dans le déni, comme si elle trouvait normal, sa maman, pour une jeune fille, de se faire agresser sexuellement.
Bah, comme souvent, les témoignages de personnes violées qui ne sont pas prises en compte par l'entourage, pour plein de raisons. C'est une question d'époque, de génération. Il ne faut pas déranger, il ne faut pas en parler. Voilà. Et les choses sont en train de changer, heureusement. La parole se libère.
Et ce qui, la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'elle se libère dans ce magazine. Dans cette interview, vous racontez votre amitié avec Catherine Pancol. Vous dites ceci, elle est là, bienveillante, parfois en colère quand elle me prend en flagrant délit de subir l'inacceptable. Ça vous fait sourire. C'est quoi l'inacceptable que vous subissez ?
C'était des situations dans ma vie amoureuse notamment. Elle déteste quand je ne suis pas active et quand je me laisse manipuler. Elle a horreur de ça. Donc elle est là, elle veille avec son armure et son arme et puis elle me secoue les bretelles de temps en temps.
Beaucoup de questions tournent autour de l'âge dans ce magazine. La ménopause, le départ des enfants, la chirurgie des paupières. J'y vais ou j'y vais pas. Vous l'avez faite, la chirurgie des paupières ? Comme vous êtes très transparente et tout le monde raconte tout dans ce magazine, je me permets de poser la question, ce que je me permettrais jamais, je le précise,
alors,
en temps normal.
Je ne suis pas contre. Voilà, je trouve que pourquoi pas. Il y a aujourd'hui des tas de techniques qui permettent d'avoir un visage plutôt présentable. Si c'est bien fait, pourquoi pas.
Il y a aussi Laura Adler qui parle et qui dit qu'elle s'est fait opérer les paupières. Elle ne dit plus jamais ça. Pourquoi je parle de Laura Adler ? Parce qu'elle emploie un mot qui est bannie désormais. Elle dit « Le moment est venu pour les vieux de se faire entendre ». On a le droit d'écrire « vieux » maintenant dans un journal, Jérémy Parer ?
Bien sûr qu'on a le droit. Et justement, dans ce journal encore plus, parce que justement, y a pas, on ne veut pas de tabou, on veut déculpabiliser les gens. On veut aussi dire bah « voilà, quand vous avez 50 ans ou plus de 50 ans, c'est pas grave, il vous reste la moitié de votre vie
oui,
encore à
vivre ». Oui, mais vous connaissez le politiquement correct.
Mais on ne veut pas être politiquement correct.
Ça fait longtemps qu'on m'apprend qu'on ne doit plus dire « vieux » à l'antenne, mais on doit dire « senior ». Et le président Macron dit même plus « senior », il dit « nos aînés ».
Enfin bon, en parlant de vieux, moi je me sens pas vieille, hein, donc il y a quand même une incroyable évolution dans ce qu'on, dans la manière dont on vieillit. Aujourd'hui, ouais. À 50 ans, on est une gamine. Tout reste possible.
Il est indiqué en couverture que le magazine est sans tabou. Il y a évidemment des pages sexo, comme on dit, et le grand article sur la sexualité est consacré au fait d'assumer de ne plus avoir de désir sexuel. Le titre, c'est « Pas envie alors ». Alors, c'est sûr que si on n'a pas envie, on ne va pas transgresser les tabous.
Bon, alors, il n'y a pas besoin d'avoir 50 ans pour ne pas avoir envie. Hein. Il y a des tas de femmes qui n'ont pas envie dans des situations différentes.
C'est ce que dit l'article aussi, d'ailleurs.
Avant, ouais. Voilà. Donc, mais c'est vrai que quand on est ménopausé, il vaut mieux prendre quelques traitements parce que ça joue aussi sur la libido. Et pourquoi ne pas le dire ? Alors, mais après, quand on est amoureux, le désir est là. Hein.
Alors, je dois le dire, c'est un magazine totalement décomplexé. En tout début de magazine, il y a un bloc-notes. Il y a 6 ou 7 petits articles sur une double page. Je cite, des histoires, des initiatives, des événements qui nous font du bien. Alors, il y a quelque chose qui vous fait du bien, c'est entre le Téléthon et les confitures, c'est un sextoy. Pour quelle raison il est là, dès le début du magazine ?
Alors, d'ailleurs,
moi, je peux
sur
répondre,
le.
Si vous voulez,
alors,
parce que c'est justement.
Non, sextoy, c'est peut-être. Non, on va pas laisser répondre un garçon à la question pourquoi il y a un sextoy clitoridien.
Mais pourquoi
Sophie
pas,
Davant.
En fait.
Et Sophie
pourquoi,
Davant.
Et pourquoi pas ça, ça réjouit beaucoup de femmes et ça aide par moment. Donc, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est tellement performant qu'il faut que les messieurs soient à la hauteur.
C'est vous qui avez écrit le texte.
Il faudrait lire le numéro 2 pour
ouais,
en savoir
alors,
un petit
numéro
peu plus.
Numéro 2, on peut le dire, Jérémy, il y aura un dossier spécial masturbation féminine. Et pourquoi on n'en parlerait pas ?
Moi, j'ai rien dit. Voilà. L'article se termine comme ça. Votre article, après, on change de sujet. Orgasme garanti en quelques minutes, et entre parenthèses, et parfois moins. Point d'exclamation. À propos de test, il y a une page beauté dans laquelle vous donnez vos conseils beauté avec des cosmétiques. Mmh. Sophie Davant, crème hydratante, fond de teint, mascara. C'est vraiment les produits que vous utilisez ou c'est une sorte de publi rédactionnel ? Ou c'est vraiment votre armoire ?
Non, c'est pas du publi rédactionnel. C'est, bon, j'utilise certains de ces produits, j'en utilise d'autres aussi, mais c'est surtout une manière de d'hydrater sa peau et de se démaquiller.
Non, mais c'est vos vrais
un
produits
tuto.
Ou c'est des nouveautés?
Non, c'est pas des nouveautés. Enfin, c'est pas du tout une pub. C'est pas une pub déguisée.
Jérémy Parer, ce magazine s'est beaucoup inspiré de O avec un O comme S Sophie, le magazine d'Oprah Winfrey, star de la télé américaine. Tirage 250 000. Vous visez quel lectorat, plutôt combien de ventes?
Écoutez, si on arrive à dépasser les 100 000, on sera très 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 content. Le premier week-end de vente est très encourageant, même très très bon pour le coup. Donc on espère que ça marchera. Et pour la référence à Oprah Winfrey, c'est vrai qu'on a cherché dans le monde ce qui s'était déjà fait. Effectivement, Michel Cymes en France, Oprah Winfrey. Après, la comparaison s'arrête vraiment là, parce que dans le contenu, c'est vraiment très 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 différent du magazine d'Oprah Winfrey. Et en tout cas, on espère avoir le même succès que ces deux exemples-là.
Et question très très rapide, Sophie n'écoutez pas. Sophie sera en couverture de tous les numéros comme Oprah Winfrey qui est en couverture de tous les numéros.
C'est en discussion, justement. Elle sera peut-être en couverture de plusieurs numéros, mais peut-être pas seule non plus à chaque fois, et ce qui sera déjà une grosse différence par rapport au magazine que vous citez.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
Vous voyez, il faut venir à Culture Média pour apprendre des choses. Merci beaucoup, Sophie Davant. Merci beaucoup, Jérémy Parer. Je rappelle, est-ce le magazine de Sophie Davant? C'est un bimestriel, c'est une fois tous les deux ans, et je n'ai pas dit le prix, c'est 3 euros tous les deux mois. Et je n'ai pas dit le prix, c'est 3,80 €. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média qui continue. Après le rappel des titres de 10h, on va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain, hommage à l'un des derniers compagnons de la libération, Daniel Cordier, et Bertrand Chameroy avec une histoire horripilante de confinement. Vianney ensuite pour son nouvel album N'attendons pas, bon, on l'attend d'une minute à l'autre, et puis dans les indispensables, du rire avec 3 podcasts animés et imaginés par des humoristes, et de la nostalgie avec la réédition d'une des premières consoles de jeux vidéo. À tout de suite.
Europe 1 Culture Média,
9h, 11h,
Philippe Vandel.